on va passer aux questions. Je vais commencer par une question, plutôt qui s'adresse à Pierre Delette, mais pas forcément. C'est sur la question du tri et de l'orientation des malades. Aux urgences, ou dans des situations d'urgence, on est amené à orienter les malades. Je trouve qu'il y a une proximité, j'aimerais avoir ton avis là-dessus, entre le tri d'orientation, parce que c'est pour ça certainement orienter un malade, c'est pour ça qu'on rentre à la clinique. Ça dépend aussi des places qu'on peut trouver, des différents services, des conditions matérielles qui dépendent du moment, qui sont variables d'un jour à l'autre. Ça dépend aussi de l'heure, enfin, suivant l'heure, on peut contacter les secteurs, on peut éventuellement organiser autre chose. Alors, est-ce que. Quel lien entre orienter et trier? Et puis surtout, le deuxième aspect, est-ce que orienter, c'est déjà soigner, ou est-ce que c'est un préalable, au fond, à des soins ultérieurs?
L'orientation fait partie intégrante du soin, puisque, en tout cas en médecine d'urgence, si on oriente la personne dans le bon service, on a une optimisation des soins. Avec justement quelquefois des incompréhensions, des malentendus aussi. Vous expliquez par exemple à une personne que pour être soignée pour son AVC aigu, son accident vasculaire cérébral aigu, personne qui est capable, je dirais, la plupart des cas, de comprendre ce qui se passe donc, quand on fait un accident vasculaire cérébral aigu, même avec un gros déficit, il n'y a pas nécessairement des troubles cognitifs. Parce que si la personne est capable de comprendre, c'est encore plus difficile, d'ailleurs, si elle ne peut pas s'exprimer par un peu d'une aphasie. Mais on leur explique que voilà, il faut qu'elles aillent dans tel établissement, parce que c'est là où on aura une prise en charge optimum de cette maladie. Et les personnes disent non, je ne veux pas aller là. Je ne veux pas aller là, je vais aller à tel endroit. Et justement, bon, ça fait partie intégrante justement de cette relation qu'on doit établir, de cette confiance qu'on veut établir avec une personne pour l'orienter vers ce qui nous paraît et ce qui, de toute manière, va lui apporter les meilleurs soins. Alors, donc, tout ça met en tension, il y a une mise en tension qui justement, c'est là toute la difficulté de l'exercice médical, c'est toute la, justement, la dimension relationnelle au sein de l'acte médical. Et aussi la liberté, parce que bon, on peut avoir des situations où finalement on peut se poser des questions sur voilà, est-ce que vraiment ça va être une réelle valeur ajoutée dans certains cas. Je prends par exemple de l'infarctus, mais. Et aussi le respect aussi du. Quand on parle de l'orientation, ça peut être aussi bon, je ne veux pas être hospitalisé, je reste chez moi. Donc l'orientation, dire. Rester à domicile. Et donc là aussi, une mise en tension entre d'un côté ce que nous donne l'état de la science, et de l'autre, je veux dire, le respect d'une volonté qui s'exprime. Et alors, c'est à ce moment-là que finalement rentre. Le cas se présente régulièrement en régulation médicale ou au centre 15, là, les gens au téléphone disent non, je ne veux pas être hospitalisé, je ne veux pas. Globalement, on arrive toujours, alors sans manipuler, sans trop manipuler, on arrive toujours à trouver, une troisième voie. Ou alors on arrive à expliquer une situation qui semblait finalement incomprise au départ. Mais orienter, c'est déjà un tri. Du tri quand on oriente, et orienter fait partie intégrante du soin. Et d'ailleurs, c'est, on va dire, la troisième composante au moment du centre qui c'est la bonne orientation du patient, le patient dans le bon service, dans un service adapté à sa pathologie. Alors après, pour le reste, il y a des situations sur lesquelles on ne peut pas, quand matériellement il n'y a pas de place, quand matériellement l'hôpital ne peut pas accepter, mais c'est tout, c'est partie des contraintes extérieures avec lesquelles il faut. Mais, justement, on parlait de liberté, c'est ça aussi, c'est de ne pas trop s'accrocher à un protocole qui effectivement est finalement la solution de facilité. On fait la checklist, voilà, on a envie ça, c'est ça, et puis à la sortie, on a bien fait son boulot, mais de toute façon, on a rien compris de ce qui s'était passé, totalement dépassé par la situation, mais voilà. Alors que, au final, le soin n'a pas été conduit d'une façon éthique.
y a des questions.
Qui va peut-être en agréger plusieurs. La principale reste sur une expression assez, qui m'a toujours moi un peu étonné quand j'ai traversé les services de psychiatrie, qui était « il n'y a pas d'urgence en psychiatrie ». Une expression qu'on a répétée de manière très régulière. Ce qui me fait poser la question essentiellement de la définition de l'urgence, et notamment la définition de l'urgence qui vient la différencier de la notion d'empressement, de la notion d'impatience, quel est le lien de la notion d'urgence avec la notion de risque pour le patient, mais aussi le lien de la notion d'urgence avec l'obligation à agir, le devoir d'agir, notamment du fait de la nécessité. Et je voudrais juste concrétiser un peu cette question-là, par une autre situation qui me met toujours assez mal à l'aise, en tout cas qui me questionne énormément, qui est la question de la contention. Est-ce que la contention relève de la notion d'urgence? Personnellement, je pense, mais c'est une vraie question que je pose. Et justement, j'ai l'impression, en tout cas j'ai l'impression d'avoir observé ça assez régulièrement, que dans les moments de contention, il y a cette espèce de fuite en avant qui veut que ce qu'on parlait par rapport au stress adaptatif, où il y a l'éventail des possibilités qui s'ouvrent, ben ça finalement ça se restreint, ça se réduit, et on en arrive à une espèce de perspective justement utilitariste, où on se dit ben, soit je le contiens parce que ben, il y a l'équipe derrière qui attend, qui pousse, et parce que sinon il va faire le bordel dans le service, tout ça, ou alors au contraire je le contiens pas. Et ça m'a toujours mis mal à l'aise au moment de la contention où finalement on a le visage du patient qui nous regarde. Et je fais exprès référence au visage par rapport à lui.
Oui,
je crois
que c'est pas psychiatre. Oui, bon, enfin, c'est vrai que c'est des. Merci, hein. Ça va. On en parlera à la prochaine garde tous les deux. Bon, ça va être sur la définition de l'urgence, moi je fais référence là, à une, alors Pierre Valette, beaucoup de Pierre ici, ça te sera peut-être plus familier, une chose que j'ai vu il y a très nombreuses années sur de l'urgence somatique, je ne sais plus, voilà, hein, c'est une diapositive qui m'avait marqué, et je viens là de tête de me la remettre en mémoire, hein, et je pense qu'elle est applicable à l'urgence psychiatrique, hein, c'était voilà, une demande dont la réponse devait être différée, alors bon, pareil, ça laisse un peu à réfléchir, hein. Il y a urgence à partir du moment où quelqu'un se pose la question. Et je trouve que c'est pas mal, parce que justement, ça laisse une espèce de largeur là, dans l'interprétation, l'appréciation des choses, qui nous permet de se sortir de l'urgence vitale. Parce que ça, je crois que c'est pour l'urgence vitale, c'est un danger, notamment quand tu cites, hein, vraiment, tu pourras aussi rebondir là-dessus, hein, c'est que voilà, l'urgence, c'est pas que l'urgence parce qu'il y a un risque suicidaire patent, ou parce qu'il y a un risque hétéro-agressif, ou qu'il y a un risque médico-légal. À l'urgence, voilà, typiquement, nous, là, pour le coup, à l'urgence, aux urgences, que ce soit versant somatique, au SAMU, aux urgences, ou versant urgence psychiatrique, hein, l'attaque de panique, hein, c'est évidemment une urgence, parce que l'intensité de la souffrance psychique nécessite une réponse adéquate, rapide, hein, voilà, donc... Alors après, je suis très étonné de t'entendre dire que tu entends encore, hein, voilà, dans cette jeune génération, là, il n'y a pas d'urgence en psychiatrie. Alors honnêtement, moi, je ne l'ai pas entendu, tu l'entends.
C'était dernier.
Il
n'est
pas plus sourd que celui qui ne peut pas entendre. Hein, mais je. Bon, voilà. Après, sur la contention, voilà. Voilà, moi, juste. C'est également notre quotidien, la réflexion autour de la contention. Alors, moi, je parle de la contention en urgence. À un moment donné, tu parlais de contention, mais de contention aussi dans les services. Enfin, bon, parce que l'état des lieux de la contention en France, oui, c'est l'urgence aux urgences, hein, mais c'est avant tout et surtout, et ça, vous savez qu'on est dans le collimateur d'un tas d'associations, pas que d'usagers d'ailleurs, hein, y compris de gens qui défendent, hein, des libertés individuelles, hein, c'est la contention, c'est aussi la contention dans les services où il y a des patients qui présentent des pathologies neurologiques, d'autres détériorations mentales. Et là, pour le coup, c'est vrai que c'est assez effroyable, parce que c'est la contention par manque d'autre chose. Hein, c'est la contention un petit peu par défaut. Hein, pas citer, il y a un service ici au CHR, de neurologie, qui accueille des patients, effectivement, qui, par définition, de par la pathologie qu'ils ont, présentent des ambules, présentent des troubles des conduits, des troubles du comportement, etc. Et puis, voilà, à partir du moment où il y a une aide-soignante la nuit pour 22 malades, c'est vrai que, c'est cruel. Et puis, sur le coup, sur le plan éthique, c'est quelque chose qui est douloureux. Il n'y a pas trop de solutions. Malheureusement. Alors, pour l'urgence, moi je suis plus au clair avec ça parce qu'à un moment donné, la contention intervient comme un moyen thérapeutique. Intervient comme pour nous sur une décision médicale, en notre âme et conscience, avec effectivement le fait de poser l'atteinte à la liberté individuelle fondamentale qui est celle d'aller circuler, mais de quelque chose qui va protéger le patient contre lui-même de manière très ponctuelle et puis nous permettre d'accéder à d'autres soins. Il n'y a de contention physique sans contention chimique. Il n'y a pas de contention physique sans qu'elle soit contrôlée et levée le plus rapidement possible. Je n'ai pas les chiffres moyens, mais la contention dure rarement plus de plusieurs minutes dans les services d'urgence, parce que justement, pour le coup, on a d'autres moyens thérapeutiques. Donc moi, en ça, ne me pose pas de problème. Alors, ce qui par contre me pose problème, c'est que c'est les pays qui ont légiféré et qui ont interdit la contention, je pense à nos collègues suisses, vous savez qu'à Genève, tous les universitaires de Genève, sur le canton de Genève, la contention est interdite, c'est quelque chose, les liens de contention n'existent plus, et c'est considéré comme quelque chose de pénalement répréhensible. Bon, les opérateurs, les acteurs de terrain disent même que c'est un petit peu compliqué, et que parfois, paradoxalement, il y a des phénomènes un peu d'escalade symétrique dans la violence sont plutôt plus présents qu'avant parce que justement il n'y a pas eu moyen de décapiter au tout début ces montées de violence dont on connaît les conséquences potentielles. Voilà, deux réponses en vrac à des interrogations qui sont de grande ampleur.
Sur des urgences qui posent attention.
Contrairement à ce qu'on voit, c'est que les GLAS sont pour l'urgence. Souvent, on répond à des rendez-vous quand il y a très peu de grèves de médecins généralistes. Alors, ce qui nous aide, c'est qu'on connaît le patient. Donc, on peut apprécier le degré d'urgence. Que la difficulté du régulateur, c'est qu'il ne connaît pas le patient. Donc, il faut vraiment beaucoup de travail, d'expérience, en fait, pour être capable de gérer bien. Et moi, j'ai envie de dire, depuis que, pour avoir travaillé aussi avec l'ARS sur l'évaluation des gardes avec les associations de patients, c'est un peu comme dans la définition de la douleur. On a tendance à avoir la définition d'urgence en fonction de nous, médecins, c'est-à-dire l'urgence vitale. Je crois qu'il faut l'envisager dans le langage du patient, c'est-à-dire que ce qui est urgent pour lui, on doit le prendre comme tel. Alors c'est extrêmement difficile parce que souvent on entend, mais non, c'est pas urgent, ça sert à rien. C'est le côté un peu paternaliste du médecin qui se réveille. Des fois, c'est un peu thérapeutique, s'il y a une bonne empathie. Mais souvent, c'est de nature à aggraver même la relation, à énerver. C'est là où on peut avoir des familles derrière, en fait. C'est vrai qu'il faut avoir, au niveau du management, quelque part, les hôpitaux, au niveau des gens, on parle souvent d'agression au niveau de personnes qui se fait agresser, parce que je pense que cette notion-là n'est pas suffisamment. Faute de moyens, parce qu'il faudrait peut-être presque quelqu'un en amont, qui apaise, qui diminue un peu pour évaluer, pour dire à la personne, je vous ai entendu, je vous ai reconnu, etc. En fait. Ce qu'on fait souvent, nous, au téléphone, quand on a les patients, c'est on se dit, attendez, je ne peux pas aller tout de suite, les embouteillages, etc. Et souvent, on arrive à faire attendre les patients dans l'urgence. Donc, c'est deux pratiques différentes. C'est vrai qu'on est favorisé par le fait de bien connaître les patients. Et je pense que simplement, ce qui est important, c'est de noter le fait que l'urgence pour le médecin, ce temps-là, en fait, était urgent parce qu'il était vital. Si le patient pense qu'il va mourir, bah, il faut faire comme s'il allait mourir. C'est ce qu'il ressent. En fait. C'est mon avis, je vais dire, le partage.
C'est
l'urgence
ressentie.
Enfin,
si effectivement on pouvait définir l'urgence et être d'accord sur le terme, il n'y aurait pas de question. La question est ouverte. On voit tout à fait ce que tu as dit. Hein. C'est à partir du moment où quelqu'un ressent une urgence, c'en est une, et elle est, comment dire, elle ne coïncide pas forcément avec nos catégories nos catégories médicales, notre représentation médicale, mais elle correspond quand même à une représentation qui est la représentation du patient. Et à un moment donné, il faut que les deux représentations se rencontrent. Quitte à justement avoir comme résultat et une bonne sortie, disons, avec, avec le constat qu'il ne s'agit pas d'une urgence vitale, qu'il n'y a pas de, de danger, de péril. C'est soulager une angoisse. Donc, concernant l'urgence psychiatrique, je pense que ça fait pas mal d'années que j'ai l'impression que une des dernières disciplines à avoir découvert l'urgence, c'est tout récemment, c'est les neurologues. Parce qu'avant, il n'y avait pas d'urgence. Oui. Et maintenant, ils en ont. D'ailleurs, c'est même pour avoir un neurologue. Non, mais ils ont découvert ça avec l'AVC. Donc, c'est vrai que c'est une révolution culturelle. Bon, c'est en train de prendre bon chemin. Mais c'est vrai qu'en psychiatrie, ça fait quand même pas mal de temps qu'on parle d'urgence psychiatrique, et c'est parti des disciplines l'histoire des cubes remonte à 96, je pense que déjà un peu avant, on avait commencé, parce que les cubes ne seraient pas nés si les psychiatres n'avaient pas senti cette histoire d'urgence. C'est comme celle du 2. C'était. Alors, petite parenthèse pour la contention, la question doit rester ouverte, et c'est ça justement la dimension éthique, et que bon, même si on prescrit une contention, on sait qu'on ne fait pas si bien que ça. Et justement, le tort serait de protocoler, voilà. Non, c'est ouais, je dirais, quand on parle des Suisses, ils ont de la vie, ils ont répondu. En compensation, on va dire. Hein. Non, mais. Suicide assisté, ça s'appelle, ouais. Comme ça, c'est justement une grande liberté. Mais l'intérêt, c'est qu'une équipe soignante continue à s'interroger et ne cessera jamais de s'interroger sur la contention des patients. C'est le jour où une équipe soignante arrête de s'interroger sur la contention, là, il y a un problème.
Oui, non, ça m'amène à un tout petit clin d'œil, puis je crois que c'est une vraie piste de réflexion. J'entendais il n'y a pas longtemps un internat ici pas loin, des collègues neurologues très caustiques, connus pour sa causticité, hein, qui disaient à propos justement du fait qu'on est dans des neurologues à l'urgence, et nous on a une péage de neurologie temps plein à l'urgence, ah voilà, on a l'air de dire un peu moqueur, ça y est, maintenant les neurologues s'intéressent à l'urgence, les neurologues s'intéressent à l'AVC, mais en fait ils s'intéressent à l'AVC depuis quand? Depuis qu'il y a le thrombolisme. Hein, et que c'est aussi, à un moment donné, voilà, la possibilité d'avoir des perspectives thérapeutiques, hein, qui fait qu'on va comme ça les décaler en amont au niveau de l'urgence. Et c'est vrai que quand la réflexion que tu fais sur la médecine, sur la psychiatrie de catastrophe, je crois que c'est quand même aussi ces années-là, c'est certes elles sont du Vietnam, enfin, etc., mais c'est aussi à partir du moment où on a pu, dans les premières heures ou les premiers jours qui suivent à l'événement traumatique, mettre en place des stratégies pharmaco-psychothérapiques plus ou moins efficaces, que du coup, ça s'est incrémenté et c'est devenu un volume à part entière. Hein, donc, je crois qu'il y a une perspective aussi, ça. Merci. Bertrand. Oui.
Moi, j'ai longtemps travaillé en psychiatrie quand j'ai commencé avec le docteur Bayon. Et cette phrase, il n'y a pas d'urgence en psychiatrie, je l'ai entendue. Mais moi, en fait, chez moi, elle résonne comme ça, en fait. C'est dans le sens où on a du temps, on peut se poser. On a du temps pour rien écrire. C'est-à-dire qu'on va commencer à travailler avec l'histoire d'une personne, mais il y a du temps. Donc récemment, j'ai accompagné un jeune de 15 ans qui venait de décompenser une bouffée délirante, donc 2 mois d'hospitalisation. Et dans mon parcours, je l'ai accompagné dans un lieu de soins. Et la première question qu'on lui a posée à 15 ans, c'est avant votre admission, il faut que vous nous parliez, quel est votre projet? Et lui, il se met dans sa chaise et il me regarde, mais en fait, je ne sais pas ce que c'est que cette question du projet, parce qu'il fallait tout de suite, il fallait qu'il réponde là, maintenant, tout de suite. Et par la suite, je lui dis, mais ça t'a fait quoi cette question de quel est le projet que j'ai, moi? Il me disait, mais ça fait, j'ai pas le temps, puisque ça fait 2 mois que je suis hospitalisée, et que là, j'ai envie justement de prendre du temps pour, avec ma famille, pour réfléchir à un projet. Et c'est en ce sens-là où moi, j'entends, il n'y a pas d'urgence. C'est qu'on peut prendre du temps pour accompagner une personne, qu'elle chemine dans le soin et qu'elle chemine pour après savoir ce qu'elle veut faire aussi. Donc c'est aussi nous, on est dans des, enfin moi qui suis cadre infirmier, j'avais ces injonctions de allez, remplir projet moyen, court terme, moyen terme, moyen. Et je me suis rendu compte, après tout, avec cet exemple-là, que finalement, sans vouloir, je mettais une pression là où il ne fallait pas la mettre, puisque ben, moi je répondais à déjà des injonctions professionnelles, du style il fallait absolument mettre quelque chose dedans, parce que c'est comme ça, hein, ça marche, la qualité, et que les personnes, un SDF à sortir en prison, quand on lui parle de la question du projet, et bien il lui dit, ben, moi j'ai toujours vécu sans projet. Et on pose une question et il faut du temps. Et c'est sans, moi ça résonne, ça c'est quelque chose du temps.
Oui, je suis assez d'accord avec vous hein, sur cette question du temps. Ça fait écho d'ailleurs avec il y a 3 ans, là, le congrès des urgences où a été intervenu en convive, hein, qui avait remarquablement aussi philosophe discuté sur cette temporalité de l'urgence. Moi, je voulais revenir un petit peu aussi sur l'aspect donc soins contraints et puis évidemment psychiatrie, tout le problème de la loi et des familles dans cette loi et de l'implication aussi des vicaires, hein, comment peuvent se retrouver impliqués dans le soin, l'environnement, le tiers, la recherche du tiers, enfin bon, j'ai un peu souci, parce que tout à fait récemment été face à cette situation. Mais c'est vrai que c'est pas simple parce que ce Pierre, il est là, il est sollicité, il devrait être là, il n'est pas toujours. Donc du coup, on retrouve cette notion-là qui a une responsabilité, sinon partagée ou déléguée aux soignants. Enfin, c'est quelque chose qui n'est pas simple. La loi a toujours eu de la difficulté à placer, à déplacer, à enlever, puisque maintenant, dans le délinement, le Pierre, s'il n'est pas disponible, peut ne pas être là. Et en même temps, on demande, on a du mal aussi à expliquer aux familles que la personne de confiance n'est pas forcément quelqu'un de la famille. Et on a encore une autre notion de responsabilité par rapport aux soins. Et je pense que ce n'est pas évident non plus à recaler tout ça actuellement avec tout ce système de soins sous contrat, hein, puisque la psychiatrie étant la dernière spécialité où on peut. Privé de liberté. C'est un peu ma question.
Moi, je pense que la psychiatrie est peut-être une spécialité qui s'est transformée ces 30 dernières années, peut-être peu d'autres. Sur la question des urgences, il y a 30 ans, effectivement, une communauté pouvait dire qu'il n'y avait pas d'urgence en psychiatrie. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un discours qui n'est plus tenable pour des tas de raisons. D'ailleurs, Guy Bagnon a changé radicalement de position hein, en disant qu'aujourd'hui, il considère que les urgences travaillent sur l'accueil de votre manière, mais justement, on est revenu un peu sur ce qu'on lui reprochait. Et sur les usagers, je pense qu'effectivement, la question, c'est de savoir un peu comment aujourd'hui les usagers, les familles des usagers, enfin ce terme d'usager aussi, montre la transformation de la psychiatrie. Et tout à l'heure, on a parlé du CIAP comme étant sûrement l'élément déterminant où, au fond, les patients eux-mêmes ont pris en charge de cette manière avec les médecins maladie aussi, qui en a parlé. Je crois qu'aujourd'hui, la psychiatrie, c'est vraiment à ça. Effectivement, les usagers, les familles, les patients, les malades, enfin tous ces termes très différents cohabitent. Et la question, c'est un peu de savoir comment tout ça va s'organiser.
Vas-y, monsieur, je pense que.
Oui.
Si vous avez.
Je vais pas vous porter le micro, pardon.
Le fil va être.
Je me présente Alain Garanti, je suis médiateur père, si vous pouvez l'enrichir sur la borne. Fois hospitalisé. Docteur Cournobis, déjà je vous remercie de votre intervention et des gens que vous avez cités, à savoir le mouvement des usagers. On n'est pas juste une orientation de la psychiatrie. On est juste à l'origine du mouvement du rétablissement. Et peut-être derrière, utiliser et en bien pour développer ce qu'on appelle la réhabilitation, et la réhabilitation psychiatrique, psychosociale notamment. Il se trouve qu'au cœur de tous vos questionnements, la réponse, et les réponses, elles sont là. Elles sont dans justement cette maison des usagers qui est en train de se développer, là où vous travaillez, Dr. Colonis, notamment, et vous conseillez.
Oui, d'entendre.
Oui,
d'entendre.
Elle est dans.
Je ne voulais pas faire de pub.
Oui, qui est dans le monde du rétablissement. On prépare. Quand on se construit, expert de sa maladie. On est métier de ce qu'ont fait les gens qui ont travaillé autour du VIH, effectivement. C'est-à-dire qu'on se construit autour de l'expertise de sa propre maladie en relation avec le psychiatre qui devient une aide. C'est un des champs de notre vie qui nous permet de vivre avec et de vivre au milieu de tous. Ce questionnement que vous avez sur la contention, alors après, les Suisses l'interdisent, pourquoi pas, s'ils arrivent à s'organiser sans. Parce que le questionnement que vous avez, là, quand vous voyez l'usage, moi je l'ai fait plein de fois, enfin, deux fois, c'était très revendicatif. Or, la contention en France, on les secteurs un petit peu à l'ancienne, et comme ça, à peu près avec tous les secteurs de l'île, c'est vraiment qui sont encore à l'ancienne, on l'utilise comme une rétorsion. C'est-à-dire qu'on l'utilise, on l'utilise comme. On n'a pas d'autre choix, on va très très vite à utiliser ça comme le comportement en infra, c'est ça, tu n'acceptes pas le comportement que tu dois avoir en infra, on t'attache. C'est comme ça que ça se passe, et ça arrive souvent malheureusement. Il faut qu'on puisse s'organiser autrement. Et c'est ensemble qu'on va y arriver. Moi, quand j'étais au Québec, j'ai découvert ce qu'on appelle les maisons de répit. Il y a le CAC, avec le CP2A que vous avez cité, et à Lille, vraiment ça avance, moi je viens de la Picardie, je vous jure, c'est le désert. Ici, vraiment, on peut être fantastique. Mais il faut encore avancer, et c'est au centre de ça, dans cette collaboration entre nous. Mais cette question que tu te poses, honnêtement, pose à toi toujours, est-ce que j'avais pas le choix, et surtout, reviens toujours avec ton cœur, pourquoi tu l'as fait. Toujours avec tu l'as vu dans les yeux, reviens voir quand il est revenu, quand il dans le jeu de qui fait quoi. Et ça, c'est ça l'éthique. C'est ça l'éthique. C'est pas se barrer, même en tant qu'interne. Et ensemble, là, on fera baisser le stress à l'accueil, parce que je pense que les personnes ont aussi leur place à l'hôpital, au service d'urgence, et ensemble, on fera avancer, effectivement, ces questions d'éthique, ces questions de prise en charge, et surtout ces questions de rétablissement des gens. Vous l'avez dit aujourd'hui, on peut expliquer à une famille qu'avoir une pathologie schizophrénique contre notre devoir, c'est pas grave. C'est pas grave parce que c'est bien. Moi, aujourd'hui, je vis avec ce que je suis, et je pense peut-être réussir à reprendre le chemin que j'avais, et à développer des compétences professionnelles, et à avoir des responsabilités, et à accompagner.
Merci, parce que c'est ce qui est par contre nouveau, surtout ma génération, parce que je me considère déjà comme un vieux médecin, c'est ce travail qui n'a pas été du tout dans nos formations. On a été, donc c'est vraiment apprendre à échanger avec des patients qui ont un savoir du fait de leur pathologie et qu'on apprend différemment finalement. Donc c'est vrai que c'est bien d'avoir effectivement des lieux d'échange et l'éthique, c'est effectivement la remise en question perpétuelle. C'est effectivement un travail plein d'avenir. Et je pense que effectivement, j'espère que les jeunes psychiatres, je pense que je compte effectivement sur eux. Donc l'avenir, de toute façon, je ne suis même pas sûr qu'on ait le choix, parce qu'il y a une évolution telle de la société. Avant on avait la santé mentale d'un côté, maintenant on est vraiment tous, on est plus ou moins obligés de travailler en santé mentale, et puisque je parlais de burn-out chez les médecins qui jonctent, entre guillemets, il y en a de plus en plus, du fait des conditions de travail, etc. Donc il y a une proximité, il n'y aura plus d'un côté les patients et de l'autre côté. Et je parlais aussi de la durée, on travaille quand même dans la durée, donc c'est quand même important aussi d'avoir des actions comme justement l'éducation thérapeutique qui permettent aux patients de s'autonomiser en fait et d'être capable de mieux gérer sa pathologie en fait. La loi qui a mis un peu en place ça et l'ARS qui pousse aussi avec des moyens qui sont quand même relativement importants, je pense que c'est une bonne chose. Et je voudrais que ça soit partagé effectivement par le maximum de professionnels de santé, ce qui n'est encore pas tout à fait le cas pour tout le monde.
C'est pour répondre aussi à ce monsieur. Il y a une culture qui est en train de naître quand même dans le champ de la médecine en général, mais dans la psychiatrie, parce que je connais mieux, c'est la culture de l'anticipation. Et l'anticipation, c'est tout ce qu'on appelle ça, directive anticipée, etc. Mais c'est quelque chose qui essaie de tenir compte de la préférence des patients, justement. Et la préférence des patients, alors, ça peut être hors l'urgence, c'est très simple, c'est de dire est-ce que vous préférez tel ou tel médicament, telle prise en charge, telle ou telle orientation, tel ou tel système. Donc ça marche mieux. On sait quand la préférence des patients est prise en compte, et là, il y a un meilleur pronostic, ça c'est tout à fait clair. Mais pour l'urgence, là où ça devient intéressant, c'est qu'on commence à avoir des travaux, et en particulier bon, pour les tropicolaires, de dire, bon, maintenant, monsieur, ok, vous connaissez votre maladie, vous savez, mais vous n'êtes pas à l'abri de faire un épisode dépressif, maniaque, et voilà. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là et comment on programme les choses? Si jamais ça vous arrive, qu'est-ce que vous nous autorisez à faire? Jusqu'où on peut aller? Est-ce qu'on peut aller même jusqu'à la contention? Peut-être être d'accord, on a vu si oui ou non on le fait ou on ne le fait pas, tout ça, mais de prévoir à l'avance. Et ça, je trouve que c'est quand même un progrès dans la façon de voir, parce que c'était pas du tout dans la culture des pratiques psychiatriques, et ça, c'est quelque chose qui change. Mais il y a des limites à ça, parce que c'est très bien la notion. Vous connaissez votre pathologie, vous êtes expert dans votre pathologie, donc vous dites, donc on va le faire. En revanche, par rapport à ce que vous avez, le cas que vous avez présenté, M. Corbeau-Bis, où là, vous nous parlez de cette dame qui est marinière, qui dit, moi, je suis né sur ma péniche, et je voudrais mourir sur ma péniche. C'est différent. On pourrait penser que c'est une directive. Et vous culpabilisez après de dire, ben, je l'ai envoyée en gérontopsychiatrie, cette femme, et puis elle est morte, alors que son désir, c'était tout ça. Mais si vous interrogez combien de gens qui vont vous dire ici, voilà, monsieur, si un jour vous avez une maladie d'Alzheimer, qu'est-ce que vous allez faire? Ben, surtout, vous tuez, ou vous faites tout ça. Mais on peut pas prévoir, personne ne peut dire comment il va être le jour où il aura une pathologie. Si cette femme avait fait un infarctus, vous l'envoyez immédiatement aux urgences, on vous pose des questions. Et si elle était morte d'une complication à l'hôpital, ça aurait été chose. Là, vous vous dites, oui, mais j'ai fait quelque chose, il y a un débat éthique après qui vous anime, mais a posteriori. Alors que, bon, je crois que c'est tout à fait important, et c'est là que le médecin a un rôle, et qu'il n'y a pas, là on n'est pas dans une directive anticipée, même si elle vous avait dit, moi je veux mourir sur ma péniche, mais vous avez entendu, j'aimerais bien mourir sur ma péniche en bonne santé, comme la mort qu'on souhaite tous, et là c'est quand même très différent, et c'est vrai que là c'est le médecin qui choisit, parce qu'il y a une situation, alors c'est vrai que ça aurait été bien de pouvoir discuter de ça avec la famille un petit peu avant, qu'est-ce qu'on fait, etc., et de ne pas se retrouver seul dans une situation comme ça, mais... Ça, c'est le choix du médecin à un moment donné où là, on décide pour quelqu'un d'autre et peut-être indépendamment de ce qui a pu être dit au vu des risques portés par telle ou telle situation. Donc c'est deux choses différentes, mais l'anticipation est quelque chose qui mérite d'être développé, en tout cas dans les pratiques.
Moi, je voudrais juste pour rebondir là-dessus, faire aussi ces méthodes-là, elles sont simples. Donc l'anticipation, enfin simple, d'entra et l'accompagnement des patients, vous avez, parce qu'on a déjà dit, beaucoup de gens qui accompagnent les patients psychiatriques, on appelle ça les plans de rétablissement INRF, les plans d'intervention. C'est à l'origine Copland qui a développé ça le plus, mais il y en a maintenant par pathologie, ça se construit ensemble. Nous, personnellement, dans l'équipe, on utilise ces outils-là. Moi, je suis un formateur d'adultes à la base, je suis un formateur bipolaire, j'ai aussi un parcours professionnel, et je suis en train de construire avec le PSM Maison Blanche une formation pour à aider les équipes à accompagner, orienter l'établissement, à utiliser ça, à utiliser ces méthodes qui renforcent l'indépendance des patients, et ça va vraiment, nous ce qu'on veut, c'est vraiment développer ça et le rendre le plus utilisable par le plus grand nombre de personnes possible, et c'est avant tout donner, je crois que c'est possible pour tous vos patients atteints de pathologie schizophrénie, en temps de voir tout ce que vous voulez, de se rétablir à partir du moment où vous croyez ça. Enfin, alors déjà, vous allez leur apporter beaucoup.
Merci.
Merci.
Une autre question?
Des familles, vous avez parlé des familles, des familles, certaines n'existent plus. Devant l'importance des problèmes, il y en a beaucoup qui ont disparu. Celles qui sont encore là subissent un stress, je dirais, permanent, et la prise en charge de ce type de famille mérite d'être étudiée et améliorée. Ça commence dans les hôpitaux, mais je pense qu'il y a encore des problèmes. Après, j'ai une petite note, je ne suis pas narcissique. Mais je suis aussi médecin, avec quand même quelques années derrière moi, plus devant malheureusement. À la fin de mes consultations, pas mal de mes consultations, j'ai l'habitude de dire, passion, et encore plus quand il y a un accompagnement, de dire écoutez, vous n'avez peut-être pas tout compris, mais je vous donne mon numéro de téléphone. Et ça se passe toujours très bien. Il n'y a pas énormément de gens qui téléphonent. Ça, c'est quelque chose que bon, ça s'apprend. Bon, il y a une façon de parler, etc. La faculté ne nous apprend pas tout ça.
Vous savez,
heureusement d'ailleurs, on ne peut pas tout faire à la faculté.
Ah oui, ça a changé quand même, hein. C'est que maintenant le recontact est téléphonique, totalement j'ai suicidé, mais on est en train de voir, d'explorer dans d'autres dimensions, notamment pour ce travail, hein, fait partie des pistes qui sont véritables pistes thérapeutiques, on doit montrer l'efficacité en termes préventifs. Non, mais on est tous d'accord là-dessus, sur effectivement les familles, hein, vous avez, d'ailleurs, je vois la fédération ici, c'est un bel exemple, puisque l'UNAFA met deux pleins pieds, alors je ne sais plus quelle est exactement la dimension administrative, hein, conseil de direction scientifique. Voilà, dans le conseil scientifique de la fédération de recherche, et la question ne s'est évidemment jamais posée que ça puisse ne pas être comme ça. Quoi. Oui, Pierre, tu parlais de... Il y a même une actualité très récente là, à propos de ces directives anticipées en psychiatrie, et de voilà, il y a des éléments sur la recherche. Là, hein. On a eu cette semaine, là, hein, parmi l'ensemble des projets de recherche qui ont été soumis au projet hospitalier de recherche clinique, hein, qui ont été, hein, il y a trois projets sur l'ensemble du CHU qui ont été retenus, dont deux en psychiatrie, c'est déjà pas mal. Hein, et sur ces deux-là, hein, il y en a un qui concerne, hein, les joint crisis plan, comme on les appelle, dire, voilà, cette capacité qu'on va avoir un peu à froid dans certaines pathologies, hein, à essayer de prévoir d'éventuels accidents ou incidents dans le parcours, hein, dont on sait qu'il est parfois effectivement assez chaotique. De ces pathologies dites chroniques. Oui, puis là, on voit qu'elle est à ça, elle est à l'hospitalisation à domicile, elle est à la chirurgie ambulatoire, alors ça rejoint également ce que dit Bertrand sur la présence des tiers, là, hein, comme si éthiquement ça pouvait poser un peu de questions, un peu de problèmes. Oui, bon, à partir du moment où on hospitalise des gens à domicile, à partir du moment où on va comme ça trianguler dans de plus en plus de disciplines en faisant que, que la famille devient tiers aidant, ouais, moi, encore une fois, quand c'est une intervention ponctuelle là, pour pousser un type d'hospitalisation qui effectivement est celui de la contrainte, hein, qui nous permet d'engager les soins de manière. Ouais, moi, c'est pas quelque chose qui pour finir ça veut dire me poser question, mais pas forcément me poser problème. Je sais pas, Pierre, tu conclus ou...
Une question de mon voisin. Une question pour Pierre Vellette, parce que j'ai lu votre thèse d'abord, hein, parce qu'elle était disponible sur Internet. Je ne devrais pas dire ça parce qu'il y a un livre.
C'est pas la même chose.
Donc c'est un bon travail de tête peut-être. Et je voulais savoir s'il y aura une suite, entre guillemets, comme le disait d'ailleurs le docteur Bandou, est-ce qu'il y aura une suite sur le soin, parce que c'est vraiment, oui. Je pense très très bien d'avoir quelque chose qui vient de quelqu'un qui vient du, je vais pas dire du CRM, mais qui est nourri des difficultés que rencontrent les praticiens face à l'urgence, face à l'éthique. Est-ce qu'il y aura une suite?
Oui, c'est, j'aimerais bien. J'aimerais bien, sachant que la thèse a mis à peu près 10 ans pour l'écrire. Mais parce que justement, je suis pas étudiant en temps plein. Quoi. Mais oui, je compte bien continuer si j'ai le temps. Parce que là, depuis la soutenance de thèse, j'ai des fonctions de responsabilité, mais bon, qui ne vont pas durer. Hein, et j'espère justement les nourrir un peu plus, parce que c'est vrai que c'est assez restrictif uniquement sur vous centrez sur l'acte médical, et alors qu'en fait on est sur l'acte de soin en termes général, et justement la différence qui s'établit entre un geste technique et un acte médical vaut aussi pour l'acte de soin, et donc ça demanderait élargissement à toutes les professions du soin. Ça, je suis d'accord.
Bon, très bien. En tout cas, merci pour vos questions. Merci aussi à les trois orateurs. Il y aura une suite, en tout cas, pour les soins éthiques, c'est dans 4 mois, mais on n'a pas encore des dates précises. Je pense que Nathalie découvrira les mêmes très bientôt. Voilà. Merci.